Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
nous sommes le mercredi 11 septembre avec Erika à la technique et nous vous souhaitons bienvenue dans notre émission. Nous vous lirons tout à l'heure trois pièces de Marie Ndiaye qui se consacrent décidément, dirait-on, au théâtre après le succès de ses romans. Quelques informations, pas beaucoup d'eux, hein, vous n'aurez pas une grande liste aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de lectures à faire et c'est qu'il y a un rassemblement devant la préfecture cet après-midi à 17h30, un rassemblement de soutien à Moutarar Iloudi. Qui est-ce? Ce jeune homme de 18 ans était en lycée d'études professionnelles à Brochier, à Marseille, et il est tunisien. Son père est mort, sa mère est venue en France avec ses deux frères plus jeunes qui sont scolarisés. Et elle cherchait une vie meilleure, mais ça a été très difficile pour elle. Il s'est fait prendre sans papier, parce qu'il avait déjà eu une invitation à quitter le territoire, en descendant d'un bus à Belzunce. Et il est maintenant au CRA du Canet. Une pétition circule, et je vous invite à la signer, en disant « La place de Montana est au lycée et pas au CRA ». Deuxième information, il s'agit du théâtre Tourski. Le Tourski, il vous invite dans un spectacle musical qui s'appelle Poète vos papiers. Ce sera vendredi, le 13 septembre, à 20h30, avec Richard Martin. Et à la fin de la représentation, ils vont se diriger vers la mairie. Et Richard Martin et ses soutiens commenceront une grève de la faim. En effet, ils sont devant la suppression brutale de 85 000 euros. Ces 85 000 euros sont essentiels au fonctionnement du théâtre Tourski. Déjà, le petit théâtre avait été, il y a un an, soumis à des baisses de subventions. Et évidemment, nous nous joignons à tous ceux qui vont soutenir Richard Martin. Et parce que nous aimons cette maison fraternelle qu'est le théâtre Tourski. Galère. Et maintenant, passons à la lecture de l'œuvre de Marie Ndiaye, trois pièces. En même temps que ça, elle a publié un autre petit livre qui s'appelle, j'ai oublié son nom, hein, mais j'ai choisi trois pièces parce que je me suis dit que ça serait pas mal de passer un petit peu au théâtre. Elle a un mot sur l'auteur. Elle est née en 67, Marie Ndiaye, à Pithiviers, d'un père sénégalais, d'où son nom, hein, et d'une mère française. Elle a fait des études de linguistique. Elle a eu, on parle des gens avec leur prix, hein, on ne sait pas qu'on est la religion des prix. Elle a eu le prix Femina en 2001 pour Rosie Carpe et Papa doit manger. Papa doit manger, deux romans. Et le prix Goncourt en 2009 pour Trois femmes puissantes que je vous ai lu d'ailleurs à la radio et qui était consacré au thème de l'exil. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ah oui, son dernier roman, c'est le roman d'une cuisinière, et ça s'appelle La Chef de ZFE. Et dans les trois pièces, elle organise et présente d'une part une rupture avec des lettres dont on va voir l'évolution. Enfin, honneur à notre élu qui a été joué au théâtre du Rond-Point. Et c'est Isabelle Carré qui joue le rôle de cette élue. Et évidemment, la pièce a été jouée avant l'élection. Elle date déjà un moment de Sarkozy. Et cela lui donnait un retentissement très particulier. Enfin, au centre, c'est Berlin, mon garçon. Un garçon qui habitait Chinon avec ses parents libraires a disparu. Sa mère le recherche. Son père va le rejoindre. Et voilà comment se présente cette œuvre très, très diverse. Vous allez avoir trois séries de lectures différentes et on voit comment on essaiera de voir quel est le fil, parce que moi j'ai besoin d'un fil rouge, quel est le fil de ces trois récits. Le premier s'appelle Délivrance. Où est-ce que ça se passe? Quand? Eh bien, on ne le sait pas. Elle ne veut pas le dire. Et là, il y a pas moins de 10 lettres. Et c'est la première lettre, c'est la lettre du revoir.
Ma chérie, tu peux être tranquille à présent et tu peux dire à notre enfant, sois tranquille. Et je te demande aussi d'aller voir mes parents dès que possible et de leur dire, soyez tranquille, grâce à Dieu. Je sais à quel point tu auras du mal à prononcer de tels mots, grâce à Dieu, et je te vois déjà sourire avec perplexité ou froncer légèrement tes beaux sourcils. Mais je t'en prie, après avoir souri ou froncé les sourcils, ou peut-être même vigoureusement protesté en ton fort intérieur, je t'en prie, va les voir, cours les voir, ces deux vieux fragiles que sont mes parents, et dis-leur sans sourire ni protester, grâce à Dieu, soyez tranquille. Tu feras cela pour moi, n'est-ce pas? Tu le feras parce que tu m'aimes et que cet effort te coûtera peu en regard du contentement qu'il leur procurera. Et si même il s'avisait de vouloir faire avec toi une courte prière, s'il s'avisait de penser qu'une prière dite à trois pourrait me protéger, tu éviteras pareillement de sourire ou de protester, tu éviteras de faire volontairement le signe de croix dans le mauvais sens, car ce sont des enfantillages, n'est-ce pas? Et tu éviteras encore de me vouer au diable, dans le secret de ton cœur, par provocation, et parce que tu ne crois pas que cela puisse avoir le moindre effet dans la réalité. Oui, tu éviteras toutes ces tentations qui pourraient m'atteindre sans que tu t'en doutes, qui pourraient me faire le plus grand mal là où je suis, sans que tu t'en doutes. Mais tu peux être tranquille à présent. Vous pouvez tous être tranquilles, vous que j'aime plus que ma vie. Toi et notre enfant en premier lieu, et mes pauvres parents, auxquels je ne peux songer sans que ma gorge s'encombre et se noue, puisque, une fois que tu m'auras rejoint avec le petit, ils seront abandonnés tout à fait. C'est pourquoi je te prie instamment de réunir toutes tes capacités de bienveillance, de patience, de compréhension, afin qu'ils passent l'esprit en paix les quelques mois ou semaines qu'il leur reste avant votre départ. Rends-leur des visites fréquentes, apporte-leur les douceurs dont ils raffolent, ces bonbons durs en forme de rectangle, d'un blanc crémeux discrètement veiné et dont le nom m'échappe en cet instant. Sois tendre avec eux. Tu leur diras, il va bien grâce à Dieu, il va bien. Dis-le aussi à notre enfant, dis-le à tous ceux qui s'inquiéteront de moi. Inutile de faire des mystères à ce propos, c'est la stricte vérité. Hier encore, mon angoisse était insoutenable. Le ciel s'est dégagé aujourd'hui et mon tourment a disparu avec ses nuages si noirs et si bas qu'il me semblait que le jour ne reviendrait jamais, que j'étais condamnée à supporter une nuit éternelle.
Voilà comment se présente la première lettre. C'est à noter, les recommandations qu'il fait concernent ses parents. C'est tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est la première chose. Ensuite, on se fait une idée du personnage. On va voir que ce n'est pas du tout l'idée qu'on s'en faisait. Je me suis dit, c'est l'exil. J'étais influencée par les précédents livres de l'auteur. Et j'imaginais un musulman qui retournait qui quittait la France pour autre chose. Or, pas du tout. Hein, c'est, on le verra. Et ce qui permet de voir que c'est, si les parents ne sont pas des musulmans, c'est que il lui demande de ne pas faire le signe de croix à l'envers. Le signe de croix, donc, c'est des personnes qui sont au moins des chrétiens. J'ai parlé de la France et de l'Europe. Il faut dire que depuis 2008, Marianne Diaye a choisi de quitter Paris, qu'elle ne supportait pas bien, pour aller à Berlin. Et elle dit qu'elle a connu l'exil. Exil à Berlin est le titre d'un de ses livres, mais elle a conscience que c'est un exil doré, un exil privilégié qui est le sien. Ce n'est pas, on va le voir, celui de notre personnage. Et là, dans la deuxième lecture, on va en apprendre un peu plus sur lui.
Ma chérie, je sais que je ne devrais pas t'écrire de nouveau avant que tu aies répondu à ma dernière lettre, mais tu me connais. Me connais-tu ? Rassure-moi à ce propos, je t'en prie. Si je suis un être maladroit, abrupt parfois, s'il m'arrive de m'exalter inutilement et de formuler dans cet état d'exaltation des exigences qui t'inquiètent ou te heurtent, je suis aussi un chevalier preux et avisé. Je suis aussi, de ce dernier, le cheval et le chien, tous deux vaillants, fidèles jusqu'à la mort affreuse. Je suis aussi bien le minuscule oiseau qui trouve sa pitance dans le pli d'une oreille. Je suis un époux à jamais amoureux, un père qui mourrait droit debout s'il surprenait dans l'œil de son enfant le reflet d'une honte à son endroit. Tu me causeras un plaisir immense si tu me réponds que tu sais tout cela. Mais si c'est demander trop d'efforts à ta sincérité, ne m'en parle pas, ne m'en parle pas. Je ne veux te contraindre en rien. Je veux que tu te sentes libre avec moi. J'ai peur de t'avoir contrainte par le passé. L'ai-je fait ? Ou est-ce que, par ce jour morose, lourd et gris, tout m'apparaît soumis au regret, à la mélancolie, à l'abaissement volontaire de soi-même, non pour se redresser plus beau et plus franc, mais pour demeurer enseveli, accablé. Je veux que tu te sentes libre de tout dire et de tout éprouver, sauf le désamour à mon égard.
Voilà comment il s'exprime. Et les dernières lignes, page 16, sont absolument pathétiques. Avant, le petit commentaire, c'est les dernières lignes de la lettre.
Tu comprends ? Il n'y a de joie nulle part ici pour moi. Je vous attends, oh oui, comme je vous attends.
Voilà comment il se présente. Vraiment, c'est l'amoureux transi. Et on devine quand même à travers tout ce qu'il dit qu'il y a eu des problèmes entre la femme et ses parents, et puis il faut sentir son insistance. Il a beau dire « je te laisse libre », il insiste d'une façon extrêmement lourde et il fait pression. Et c'est ainsi qu'on remarque dans la lettre la répétition de « es-tu allé les voir ?» Voilà ce qui l'inquiète le plus, c'est « es-tu allé les voir ?» C'est pas Et il a, en même temps, il devine qu'il a dû être pénible pour elle, parce qu'en insistant trop, tout en lui disant « je voudrais que tu restes libre. » On va continuer à le connaître, et je remarque une chose, c'est son souci des détails, notamment dans la première lettre, sur les petits bonbons blancs carrés, je ne sais pas ce que c'est, qu'il lui recommande d'amener à ses parents. Et dans la lettre numéro 3, eh bien, on voit qu'il n'a toujours pas reçu de lettre. Bon, il devrait comprendre, hein, mais il continue quand même d'écrire. Et toujours viennent le souci de ses parents et la prière. Une indication sur elle, petit à petit, par touches successives, là on apprend à la connaître, elle est infirmière. Lui, il n'en est pas ravi qu'elle soit infirmière. Elle dit, oh, c'est une profession qui n'est pas à la hauteur de ce que tu es. Et il ajoute aussi qu'il est mal vu au consulat. On apprend que c'est un consulat dans un petit pays, et parce qu'il est célibataire et il est obligé d'avoir les services d'une vieille qu'il n'aime pas, dont il entend le bruit des chaussons. Et il lui conseille d'amener à ses parents une bouteille de vin, donc on est bien là sûr qu'ils ne sont pas musulmans. Et puis, la lettre va s'interrompre brutalement parce qu'il entend la femme qui lui sert de, comment dire, d'aide, arrive.
Ah, voilà cette vieille aux chaussons dépenaillés. Quel regard narquois elle me lance. Elle doit cracher dans mon lait et puis battre le tout pour faire mousser. Elle a toujours des restes de bave au coin de ses lèvres humides, bizarrement rouges. On dirait une plaie sanguinolente dans sa face desséchée. Elle me hait, va savoir pourquoi. Je n'y attache plus d'importance. J'en souffre cependant, malgré moi en quelque sorte, mais je n'essaie plus de comprendre les...
Voilà, les... de comprendre les, et puis rien, même pas de point de suspension, c'est une caractéristique de son style, très très mise en œuvre dans la seconde partie, là, Berlin mon enfant, les phrases ne sont pas terminées. Et on va voir là, après cette lettre interrompue, qu'il explique qu'il n'écrit pas à ses parents. Et ben, pourquoi il n'écrit pas à ses parents, hein? Moi, je me le demande. Hein, il ne faut peut-être pas chercher le bon sens dans les œuvres de Marie Ndiaye. Mais en tout cas, hein, cette lettre interrompue montre qu'elle est mal à l'aise. Il n'arrive pas à écrire quand elle est là. Hein, et il va maintenant, dans la lettre 4, se plaindre d'elle. Et on le voit aussi, il commence à avoir des doutes. C'est, on peut dire, le second palier de cette pièce. C'est un monologue, hein. Celui qui le porte, je lui souhaite bon courage.
Je viens de rentrer. J'ai avalé cette semoule grisâtre semée d'infimes morceaux de mouton que me fait réchauffer le soir la sinistre vieille dont je te parlais tout à l'heure. Elle aime à me dire presque chaque jour qu'il s'agit là de leur plat national. C'est une recette de ces montagnes dont ils sont si fiers, car elles sont les plus hautes du continent et dont j'aperçois depuis mes fenêtres les cimes continuellement enneigées. J'ai rêvé à plusieurs reprises que tu étais l'inflexible sentinelle de ces montagnes, la fée des glaces qu'on ne peut ni corrompre, ni convaincre, ni amadouer par d'ordinaire séduction. Quel besoin ai-je de tels rêves ? Quel besoin as-tu que je te les raconte? Ne sais-je pas déjà, ne le sais-tu pas tout autant, que tu es la seule gardienne de mon bonheur et de toutes mes espérances? Je crains d'avoir commis une très grande erreur en partant avant vous, toi et le petit, pour rejoindre mon poste. Il me semblait que c'était mon devoir, oui, c'était mon devoir, sans aucun doute. Mais je m'aperçois que je suis à peu près inutile ici. Serais-je utile auprès de toi? Je n'aurais pas l'audace de le croire, car tu n'as, toi, besoin de nul autre que ta propre personne souveraine affranchie. Et l'enfant que tu as mis au monde, comme une déesse, comme un chat, tu as surgi dans l'existence avec la conscience naturelle de ta perfection et de ta liberté et de ta parfaite autonomie. Est-ce pour cela, pour atténuer ce sentiment de prééminence dont pourtant tu n'es pas plus responsable que le chat de son irréductible latitude? Est-ce pour cela néanmoins que tu as choisi de t'abaisser en lavant et torchant, et je ne sais quoi encore, que je ne veux même pas imaginer, des inconnus qui ne t'en savent aucun gré? Est-ce pour tromper ou pour briser l'empire que tu as infailliblement sur tout ce qui t'entoure? Mais vois-tu, ce n'est pas indispensable. Je veux dire qu'il n'est pas indispensable de vouloir te faire croire à toi-même que tu n'es pas un être supérieur. Tu peux l'être. Et que cela nous convienne absolument, de même qu'on ne demande pas au chat ou à la divinité d'être autre chose que ce qu'ils sont. Leur seule mission consiste à se laisser adorer comme ils le méritent. Aucune lettre ne m'attendait ce soir, à moins que la vieille toupie ne me les dissimule. Si c'est le cas, si tu m'as écrit, je l'espère si ardemment, peux-tu, je te prie, m'envoyer au consulat un télégramme me le confirmant? Je saurai ainsi ce qu'il en est. Bien que la perspective d'interroger cette femme me répugne au plus haut point, je préférerais encore découvrir qu'elle me vole et me mystifie plutôt que de devoir conclure que tu ne m'as pas écrit.
Voilà comment, hein, c'est le second stade dans sa rumination intérieure. Il commence à se résigner, il commence à avoir des doutes. Et il remarque aussi que Il se résigne à la malveillance de ses collègues, c'est dans la lettre suivante, et apparaît davantage le souci de l'enfant. Et il dit peut-être que l'enfant n'est pas à deux mois. Et il se dit, mais tout ça est un cauchemar, mais au réveil, son réveil lui dit que non, et il a découvert quelque chose qu'il ne veut pas lui dire, et ça sera la tourte. Et cette chose, c'est apparemment un détail, la tourterelle l'intéresse plus que cette femme. Il se fixe sur des tout petits détails, et c'est ainsi que il évolue vers ce que, je ne vous dis pas encore, c'est la fin. Il faut attendre l'autre lecture, page 32 là maintenant.
Ma chérie, l'aurore ne m'a instruit que sur un point, confirmé par les premières notes de ma tourterelle bien-aimée sur le toit voisin. Ce que j'ai découvert en regardant, ivre de fatigue, le soleil flou et blême se lever, je ne te le dirai pas. Que ferais-tu d'une telle information? Qu'ai-je encore en moi que tu ignores? Oh, tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout pourtant. Tu connais l'essentiel et le fortuit t'échappe. De sorte que je peux te dissimuler ce qui n'est pas important jusqu'au moment où ceci même, l'accidentel ou le futile, la grâce inopinée d'une muette rencontre avec une tourterelle, se substituera dans mon cœur à ce qui devrait m'importer ou me coûter le plus. Car je suis devenu malin, très malin, et j'ai mes petites ruses que tu ne devineras pas. Dans quel but? Je te l'ai dit, me faire léger, impondérable, et que nulle douleur ne m'affecte, nulle aigreur, nul questionnement horrible et vain. C'est ainsi que je serai libre, tout près de toi, mais à l'abri de ton regard, comme un insecte sous la pierre où s'appuie ton bras. Tout près de toi, mais libéré de mes sentiments brûlants et cruels, sans perdre néanmoins l'aveugle vénération que je te voue. Et si par miracle une lettre de toi m'arrivait, l'ouvrirais-je? Je n'en suis pas certain. Ma tourterelle ne pourrait pas l'ouvrir. L'insecte dans le havre de sa cachette ne pourrait pas l'ouvrir. Pourquoi l'ouvrirais-je si je suis comme eux? Que de terribles choses pourrait contenir une lettre de toi maintenant? Je vais les ignorer, m'en remettre à mon instinct, et que tout me soit indifférent, même ma dévotion qui simplement sera. Elle est, et je l'oublie, comme la pulsation de mon sang. Ainsi, rien ne m'afflige, rien ne m'ébranle. Renonce, mon amour, à l'idée de m'écrire si jamais elle te venait. Je ne te pose plus de questions. L'enfant, dont la pensée me perturbe encore, je travaille à effacer son visage de ma mémoire.
Voilà, c'est le début de la fin. Et la lettre suivante, on apprend que il a détruit les photos d'elle et de son enfant. Et puis, il évoque la vieille femme et visiblement, il l'évoque avec sympathie. Et on a l'impression que la vieille, c'est comme ça qu'il l'appelle, veille sur lui. Enfin, la dernière lettre, il a compris. Vous allez voir ce qu'il a compris. Vous
Ma
allez
chérie,
entendre.
J'avais fait le serment de ne plus t'écrire et je veux respecter ce serment. Mais il me faut en toute sincérité y déroger quelque peu. Pour la première fois, depuis mon arrivée, j'ai dormi sereinement et longuement et mon esprit, au réveil, s'est trouvé comme purgé de l'angoisse, de la détresse que me faisait éprouver ton silence et qui l'empêchait, ce pauvre esprit, de se pencher calmement sur les motifs possibles d'un tel silence. Dans un éclair de compréhension, j'ai su alors à quel point je t'avais opprimé, toutes ces années, par l'intensité de mon amour, par l'inquiétude de mon amour, par la jalousie de mon amour. Si, ai-je pensé, je peux maintenant me sentir léger, parce que j'accepte de n'aimer plus que ton âme immortelle, régnant sur mon petit monde, combien soulagé tu dois être de n'avoir plus à subir le poids de ma présence fervente, impétueuse, intranquille, de ce lourd corps d'homme encombrant et gauche, nerveux et toujours demandant, que tu l'aimes, que tu prennes soin de lui, que tu te soucies de ses parents, que tu lui sois fidèle. J'ai su qu'il n'était pas certain que tu ne m'aies pas aimé, que tu ne m'aimes pas peut-être encore. J'ai su que simplement, tu ne supportais plus qu'il faille pour m'aimer, m'avoir auprès de toi, que je t'avais épuisé, que je t'avais privé d'une solitude chère et nécessaire. Et comme j'ai dû encore t'accabler et t'excéder avec mes lettres toutes pleines de requêtes et d'instances, de prières et de discrètes menaces, je suis gênée, bien que mon esprit soit clair et paisible. Je voudrais que tu aies de moi un souvenir plus flatteur. Je voudrais, au bout du compte, que tu penses à moi comme à quelqu'un qui a fait pour le mieux, croyait-il. Ce qu'était le mieux, je l'ignorais alors. Je l'ignorais, vois-tu ?
Et le mieux, c'était qu'il foute le camp, quoi. Voilà, il le découvre. On va mettre de la musique avec une chanson de Jacques Brel. Galère, galère. Je trouve le récit pathétique, mais le bonhomme, il est un peu agaçant. On va passer après, avoir écouté de la musique, à la seconde partie du livre.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pas moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre.
Mais j'étais, mais moi je m'entends pas non plus. Hein.
De ta main.
Galère, galère, Marie Ndiaye, trois pièces, et voici la seconde pièce, Berlin, mon garçon. C'est construit en cinq parties. Impossible de pas d'oublier que c'est le schéma des pièces classiques. Hein. Acte 1, la présentation. Acte 2, le nœud. Acte 3 et 4, les péripéties. Acte 5, le dénouement. Et il y a en effet cinq parties dans cette pièce dont le lieu est à Berlin, hein, mais pas seulement. Autre lieu, c'est Chinon, où les trois personnages principaux sont libraires. Alors, je viens aux personnages. Donc, Marina, elle a la cinquantaine, c'est ce qu'elle tient à nous dire. Rudiger, c'est l'allemand, le berlinois chez qui elle débarque, la soixantaine. Lenny, son mari, la cinquantaine, elle a voulu préciser les âges. C'est l'époux de Marina. Esther, 70 à 80 ans, c'est la mère de Lenny. Une cliente dans la librairie, âge indifférent, dit-elle. Et enfin, Charlotte, 20-25 ans, c'est la jeune femme qu'ils rencontreront à Berlin. Il y a un personnage, si on peut appeler ça un personnage, parce que vous savez que Pierre Barbéris disait que le personnage, maintenant, c'était fichu. Mais visiblement, l'auteur s'inscrit dans une tradition plus classique, bien que son style, l'enchaînement des phrases, ne le soit pas du tout, puisqu'il n'y a quasi pas de ponctuation. C'est le rythme de la respiration qui va marquer la lecture. Je te souhaite bon courage, Françoise. Et donc, voici la liste des personnages. Et à Berlin, le lieu, c'est Corbusier House, c'est-à-dire un grand immeuble bâti à la façon de la maison du Fada, comme on dit à Marseille. Et le personnage qui hante cette maison, l'étage au-dessus de l'étage où habite Rudiger, eh bien, ce sont les choucas qui font beaucoup de bruit. Parfois, elle les appelle aussi les corvidés, c'est-à-dire des corneilles. Et au début, ça lui fait très peur. Et contrairement à ce qui se passe dans le film de Hitchcock, Les oiseaux, eh bien, à la fin, elle apprécie les choucas et elle apprend à leur parler. C'est à travers ces personnages-là qu'on voit l'évolution du personnage principal. Et là, ça s'ouvre donc, elle arrive à Berlin, et c'est Berlin vu par Marina.
Marina. Voilà donc cette ville, me disais-je. Voilà donc ce Berlin dont ils rêvent tous. Voilà devant mes yeux enfin cette ville fabuleuse dont ils entendent de très loin l'irrésistible chant. Mais quelle horreur, mais quelle tristesse, me disais-je. Je me suis détournée afin que Rudiger ne voie pas que j'étais au bord des larmes. Je me moquais bien de ce Rudiger, mais avec son regard froid, sa froide et rude politesse à l'ancienne, mais je ne voulais pas lui montrer une émotion dont il se sentirait peut-être obligé de me demander le motif. Alors lui aurais-je dit, « C'est cela votre Berlin, dont le chant silencieux les attire si nombreux ? Mais comment peuvent-ils se laisser ensorceler par une ville pareille ? Car voyez, lui aurais-je dit, ce qui se déploie sous mes yeux derrière la vitre, quittez votre regard glacé, bleuâtre, et voyez donc, par mes yeux pleins de larmes, voyez par mes yeux éberlués votre affreux Berlin, votre ville enjôleuse au ciel cendreux, les choucas tournoient follement. »
Voilà. Et de son côté, Rudiger lit dans ses pensées. C'est ce côté un peu fantastique de la pièce.
Rudiger. « Voilà donc cette ville, se disait-elle, comme j'écoutais la rumeur de ses pensées accablées, et l'observait qui gardait son visage obstinément tourné vers la vitre de la voiture, pour éviter peut-être que je voie sur ce visage l'abattement et la colère. Oui, je pouvais entendre aussi le sombre frémissement de la colère, altérer, dévoyer ses réflexions, de sorte que je brûlais de lui dire que votre colère s'écarte de moi, si j'en suis la cause. J'étais consternée de ne pouvoir lui dire. Ne croyez pas que je sois celui que j'ai l'air d'être avec mon regard froid, mon allure digne et froide et bêtement renfermée. Je voulais lui dire et ne pouvais lui dire. Je suis un homme sensible et bon. Je ne pouvais le lui dire à cause de cette habitude de distance, de pudeur absurde et d'inutile quant à soi qui est mienne depuis si longtemps qu'elle a construit autour de mon désir, de ma volonté, de mon intimité une paroi de glace. Comme j'aurais voulu pouvoir lui dire que votre colère s'écarte de moi, qu'elle laisse en paix le pauvre Rudiger, le véritable Rudiger, qui lutte en ce moment même pour s'extraire de la glace et du silence et de l'excessive bienséance qui lutte chaque jour de sa vie pour tenter d'éclipser le glacial Rudiger, au fouet cruel, aux yeux pâles, sévères, inexpressifs. Mais je suis un homme sensible et bon.
On aurait de l'empathie pour Rudiger, hein, mais on va voir comment il se comporte. Et puis, à remarquer aussi que Rudiger, la prochaine lecture, ce n'est pas la 47, c'est la 49. Et il dissimule quelque chose, c'est quelque chose concernant son logement. Il y a eu une nouvelle loi, et cette loi lui interdit de louer son appartement s'il n'y habite pas. Et par conséquent, là, il n'ose pas le lui dire, elle va s'en apercevoir quand elle arrivera. À noter la répétition qui marque bien comment les personnages lisent dans le cerveau l'un de l'autre. Je me disais, il me disait. C'est répété plusieurs fois. Et puis, les monologues vont petit à petit se décaler l'un par rapport à l'autre. Et on va continuer d'appréhender les personnages à Chinon et à Berlin.
Rudiger. Et cela, je ne le savais pas encore, car c'est bien plus tard qu'elle me l'apprendrait. Elle se disait qu'en lieu et place de son fils en personne et en chair, c'est Rudiger qu'elle aurait à ses côtés. Comme si son fils, se disait-elle, précocement vieilli au pays des plaisirs, était devenu cet austère, solitaire et sombre Rudiger. Comme si le châtiment ménagé à son fils, dans cette ville où l'on joue, on chante, on rit, on danse, au long des nuits sans fin, n'avait pas été de se transformer en petite âne, mais en vieux type flétri, incapable d'exprimer les choses simples et douces que son cœur retient captives. Elle se disait « Voilà donc cette ville où mon fils s'est perdu, englouti, corrompu. » Marina. « Il n'y avait pas encore de raison pour que je dise à Rudiger qu'il me montrait l'appartement avec une fierté discrète, qu'il me serait impossible d'amener ici, une fois retrouvé, mon fils fourvoyé dans cette ville maléfique, impossible de m'entretenir avec mon fils dans cette chambre pendant que de l'autre côté de la porte, l'haleine sifflante de Rudiger rythmerait l'émotion de nos retrouvailles et les vociférations des choucas au-dessus de nous. Je dirai peut-être un jour à Rudiger que la nécessaire délicatesse que je devais à mon fils ne pouvait s'accommoder de sa présence sous le même toit que nous, ni de celle sous le même toit que nous, ni de celle des choucas espions qui grattaient au plafond. Mais enfin, tu ne l'as pas retrouvé, tu n'es même pas tout près de le retrouver, me disait au téléphone le père de mon fils.
Voilà, on voit qu'il est résigné. Lui, il comprend pas pourquoi sa femme va le rechercher à Berlin. Il attend. Et à ce moment-là, Rudiger va sauter le pas en quelque sorte, puisqu'il lui propose de l'aider à retrouver son fils. C'est la fin de ce que j'appelle l'acte 1. Et on va voir à l'acte 2 le nœud se faire avec le personnage d'Esther, la mère, qui franchit la porte de la librairie car nous sommes à Chinon. Nous changeons de lieu.
Et là, c'est une cliente qui parle. Alors, je me suis trouvée à lui dire à ma propre stupéfaction qu'il m'était arrivé naguère de ne plus oser franchir le seuil de la librairie lorsque j'avais deviné la présence du garçon derrière la vitrine, non pas à cette époque de son enfance où la vision de sa petite silhouette pelotonnée gracieuse et concentrée était propre à me faire entrer d'un pas plus alerte encore, mais plus tard, adolescent, quand il s'est transformé sûrement implacablement en un jeune homme plein de morgue et de répugnance et d'une inflexible aversion pour tout ce qui ne lui ressemblait pas, c'est ainsi que je le ressentais, alors que j'interprétais le regard hostile, lourd, d'une ironie désincarnée, théorique, fasciste, envers ce qu'il croyait que j'étais, qu'il ignorait complètement puisqu'il ne me connaissait pas, mais enfin oui, une intello de Chinon, une bourgeoise de Chinon, une pauvre prof de Chinon, voilà ce que je devenais sous son regard haineux, railleur, du reste, il ne savait rien de moi, et aurait frémi d'horreur à la pensée d'apprendre quoi que ce soit, à l'éventualité que son antipathie désincarnée, théorique, fasciste, puisse se laisser entamer tant soit peu par ce qu'il aurait appris de moi. Esther. Léni, nous le savons depuis longtemps que notre garçon est capable de tout. Cliente. Je lui ai dit, Dieu veuille qu'on ne le revoie plus à Chinon. Nous n'avons à Chinon pas plus besoin qu'ailleurs de la méchanceté.
Mais voilà, j'ai inversé. C'est Esther qui se présente avant la cliente, mais c'est utile quand même de remarquer que sont face à face des gens, identité fascisante et profondément contestataire, et cette femme, une bourgeoise, et qui au début se plaint d'être complètement incomprise. Il veut plus la voir, mais elle non plus ne veut plus le voir, puisqu'elle dit, Chinon n'a pas besoin de gens qui sont méchants. On voit là deux mondes qui sont en face dans cette librairie. Mais la première qu'on voit arriver dans la librairie, c'est Esther, c'est la mère de l'aînée. Et Esther, elle franchit la porte, elle appelle ça la boutique. On voit que c'est quelqu'un qui méprise ce que fait son fils. Pour elle, la librairie, c'est un magasin où on achète des livres. Elle est soumise à la loi de la finance. Et Lénie entend la voix de sa mère au-dedans de lui. Encore un aspect du fantastique. Elle ne parle pas, mais il entend ce qu'elle dit. Et c'est ainsi que cette voix prend, la voix de la cliente prend le pas sur celle d'Esther. Et cette Esther qui parle au centre de son fils nous amène à réfléchir sur une relation qui est peut-être bien dominante dans l'affaire. Et Rudiger va, on va dire, c'est à Berlin. Alors on en est à l'acte 3, j'appelle ça l'acte parce que c'est construit vraiment comme une tragédie. Arrive Charlotte. Charlotte, c'est l'amie de son fils avec qui elle a vécu un certain temps à Berlin et qui a disparu. Tu trouves, page 66.
Berlin, donc. Rudiger, j'ai vu la fille, son regard traqué, exalté. J'ai vu dans quel mélange d'espoir et d'inquiétude et peut-être de remords elle posait les yeux sur Marina. Et j'ai compris aussitôt que sa visite, son existence ne m'apporterait que problèmes et tristesse et regrets. Aussi, je lui ai dit « Parlez allemand, je vais traduire pour Marina, je vais traduire pour la mère du garçon, surtout parlez allemand, que je puisse faire de votre visite, de votre existence, ma seule affaire. » Ai-je pensé sans le lui dire, et j'ai pensé encore. « Je souhaite que tu tombes morte à nos pieds. Je souhaite que les traits de ton visage s'effacent d'un coup et que ta vie ne s'immisce plus jamais dans la nôtre. » Et comme c'est impossible, je vais manger tes paroles encore flottantes sur tes lèvres, les avaler, les transformer à ma guise. J'ai dit, parlez allemand, je traduirai pour la mère du garçon. Marina. Alors, j'ai dit en anglais, je suis tellement émue de vous avoir face à moi. Puis, je me suis tue pour reprendre mon souffle et m'empêcher de pleurer bêtement. Je voulais mourir, ou plutôt me dissoudre dans le néant libérateur et miséricordieux, car il me tardait d'entendre enfin quelqu'un qui, à Berlin, avait connu, fréquenté, aimé mon fils, mais le regard traqué, exalté de la fille m'effrayait. Je voulais me dissoudre. Rudiger. Elle se disait qu'elle aurait aimé rejoindre les Choukas, qui nous écoutaient juste au-dessus sans éprouver le moindre intérêt pour ce que nous disions, qui nous écoutaient pourtant comme on écoute le vent dans les feuilles du tilleul. Rien ne nous heurte ni ne nous blesse. Marina. Rudiger comprenait le langage des Choukas, mais rien ne le heurtait ni ne le blessait. Ce qui les occupait lui était étranger. Rudiger. Et si le vent se plaint dans les feuilles du tilleul, je n'ai pas mal pour lui. Charlotte. Madame, j'ai lu votre annonce, votre appel dans Ziti, et c'est pourquoi je viens à vous. Mais je redoute que mes paroles ne vous fassent souffrir. Du reste, je ne suis pas là pour vous aider, mais pour vous prévenir. Pour prévenir tout un chacun, sans que mon nom, mon moi, apparaisse. Marina. Rudiger ? Rudiger. Elle dit qu'elle est là pour vous. Elle s'appelle Charlotte. Elle vous aime déjà comme elle aime lui, votre fils. Charlotte. Oui, je m'appelle Charlotte et j'ai peur. Rudiger. Elle dit qu'il y a une grande joie en elle. Elle dit qu'il y a une pure joie en elle. Elle s'appelle Charlotte et n'ignore pas qu'une joie ardente pose parfois sur un visage l'expression de son contraire, un étrange masque de malheur. Marina. Elle sait où il est ? Elle vit avec lui ? Charlotte. Monsieur, dites-lui que son fils a disparu. qu'il s'est enfoncé dans la ville avec le projet, le ferme désir de ne reparaître que sous la forme d'un corps qui tue, se venge, extermine et ravage. Dites-lui que son fils a décidé de n'être plus qu'un corps efficace et souverain au secours d'une cause qu'il s'est forgée de toutes pièces, mais sans laquelle le corps compétent, infaillible et sans valeur n'aurait pas de raison d'être. Monsieur, dites-lui que son fils, dans le secret de la ville, attend son heure. Rudiger. Elle dit que votre fils a quitté Berlin, Marina. Marina. Et quoi d'autre ? Elle a parlé longuement, Rudiger. Rudiger. Elle dit qu'il est parti pour Munich, qu'il cherche du travail là-bas, dans l'industrie automobile, ou peut-être la fabrication d'électroménagers. Elle dit aussi qu'ils sont heureux de s'aimer et qu'elle le rejoindra au moment opportun. Charlotte. J'entends Munich, je n'ai pas parlé de Munich. Rudiger. Elle dit qu'un enfant, qui sait, pourrait naître à Munich. Elle n'aime pas Munich, mais un enfant né à Munich réviserait l'agencement de son cœur au sujet de Munich. Marina. Vous ne parlez que d'amour, Rudiger. Est-ce bien ainsi qu'elle voit la situation ? Charlotte. Le mot amour, je le reconnais en français. Dites-lui qu'il n'est plus question d'amour. Marina. Un enfant, Rudiger ? Elle est enceinte ? Rudiger. Elle s'excuse de ne vivre que pour l'amour qu'elle voue à votre fils. Elle n'est pas enceinte, mais cela un jour peut-être arrivera. Charlotte. Monsieur, dites-lui encore qu'avant de partir, de quitter l'endroit où nous vivions ensemble, avant de s'évaporer stratégiquement dans la ville, il avait réuni une singulière collection, amassant tous les documents, articles, vidéos qui montraient la mise en œuvre de moyens terribles pour réussir héroïquement et solitairement à tuer le plus de monde possible. Dites-lui qu'il est devenu fou, ce garçon gentil. Demandez-lui ce qu'il a vécu d'effroyable à Chinon pour transporter jusqu'à Berlin un cœur aussi haineux. Oh, je connais son intention précise, je peux vous en parler. Rudiger. Elle dit qu'ils ont vécu ensemble à Berlin, une vie tranquille, à laquelle l'unique reproche qu'elle pourrait adresser serait d'avoir été peut-être excessivement suave et monotone. Elle dit qu'elle a présenté votre fils à sa famille de Spandau et que celle-ci l'a trouvé parfaitement aimable, au point que cette famille, qui a la particularité de ne comporter que des filles, joue maintenant avec l'idée de visiter Chinon, où l'on sait engendrer et élever, disent-ils, des garçons épatants comme votre fils, Marina. Marina. Ah, que de sottises ! Rudiger. C'est l'humour de Spandau, Marina. Charlotte. Dites-lui encore qu'il essaiera de frapper avant longtemps, j'en suis certaine. Dites-lui qu'il est parti que pour éviter de m'impliquer dans son projet meurtrier, et cela non pour me protéger. Il ne veut protéger personne, il n'aime plus quiconque, ni quoi que ce soit en dehors de la cause qu'il s'est inventée. Mais parce qu'il ne croit pas à ma loyauté, il ne croit plus en quiconque, ni à quoi que ce soit en dehors de la cause qu'il s'est inventée. Marina. Pourquoi Rudiger a-t-elle ce visage affligé, consterné, tourné vers moi en quête de quelque explication, Rudiger ? Rudiger. Elle dit que... Elle se demande. Marina. Rudiger ? Rudiger. Elle tâche de comprendre ce qu'il y a à faire en votre personne, Marina. Elle se demande si elle doit rejoindre votre fils au plus vite ou attendre de discerner sous les expressions de votre figure si française les sentiments que vous nourrissez à son endroit. Elle se demande, oui, elle ne sait pas. Elle a connu peu de Français et jamais encore qui venaient de Chinon. Elle s'efforce de vous comprendre et de vous complaire, Marina. Marina, dites-lui qu'elle ne se tracasse pas. Rudiger, ne vous tracassez pas. Marina, mais pourquoi mon fils ne répond-il plus à nos appels ni à nos courriels ? Pourquoi dois-je passer par Charlotte pour avoir de ses nouvelles ? C'est cela que je dois comprendre, Rudiger. Demandez-lui. Rudiger, elle veut savoir pourquoi il ne répond plus à ses appels. Charlotte. Dites-lui qu'il ne répond plus à aucun appel. Dites-lui qu'il s'est arrangé pour que nul ne puisse deviner où il se trouve, puisque son dessein est de détruire une seule formidable, épouvantable fois, et de s'anéantir grandiose dans le prodige de son acte. Rudiger. Il ne veut pas de vous là-bas, Marina. Marina. À Munich ? Je ne pourrais pas aller le voir à Munich. Charlotte. Monsieur, je n'ai pas parlé de Munich. Rudiger. Il ne veut pas vous voir à Munich, Marina. Charlotte. Enfin, dites-lui que j'en aurai terminé et il n'y a pas de raison pour que je la revoie jamais. Dites-lui que je suis venue déposer entre ses mains le fardeau de ce que je sais sur son fils, la charge terrible de ce que je pressens et redoute, à elle de porter la honte et l'anxiété à présent, puisqu'elle est sa mère et que je ne suis que l'ex-petite amie, c'est-à-dire rien. Rien qui m'interdise de revenir à l'état de bienheureuse ignorance qui était le mien avant que je rencontre, avant que j'aime, dans cette boîte de Kreuzberg, que j'aime à la folie ce garçon paradoxal, rencontré dans cette boîte où je dansais, aimé passionnément ce Français de Chinon. Je sais qu'on peut voir à Chinon de singuliers petits oiseaux qui viennent pépier à votre oreille des mots d'amitié. Demandez-lui qui lui a fait un cœur aussi haineux. Rudigère. Marina, vous n'irez pas à Munich. Marina. Je vous entends, Rudigère. Je ne veux pas en apprendre davantage. Cette fille a quelque chose de mauvais qui me déroute. Cette fille est mal intentionnée. Rudigère. Rudigère. Elle souhaite que vous partiez maintenant. Charlotte, je m'en vais, je ne reviendrai jamais. Oubliez-moi, je n'ai jamais existé. Cependant, madame, je n'ai pas parlé de Munich. Rudigère, elle dit que vous ne devez pas aller à Munich. Marina, oui, finissons-en. C'est, mon Dieu, c'est très désagréable, très déconcertant.
Voilà, on s'excuse, je n'avais pas marqué le début et la fin de cette grande intervention, mais en tout cas, on voit là comment Rudigère trahit. Il invente une histoire que le jeune homme serait parti à Munich pour trouver du travail et qu'elle devait le rejoindre. On retrouve une situation semblable à celle que nous avons vue dans la première lecture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que souvent les deux femmes, Charlotte qui est venue dire « Votre fils se cache à Berlin, il prépare un attentat très grave », et elle dit « Et elle comprend pas ce que lui dit la fille, elle accepte pas, et elle essaye de mettre Rudigère dans son tort en disant mais j'entends Munich, mais j'ai jamais entendu parler de Munich, et lui continue d'inventer son histoire absolument imperturbable.
Oui, il utilise un subterfuge puisque elle parle allemand que Marina ne comprend pas.
Oui, oui.
Donc. Charlotte lui dit des choses en allemand, il dit tout à fait autre chose en français.
Voilà. Et on apprend aussi là que Esther a convaincu, alors on passe à ce que j'appelle l'acte 4, Esther a convaincu Leni de partir pour Berlin. Parce qu'elle, elle sent les choses, c'est une espèce de préscience. Hein. Et Elle va se déchaîner et on apprend à connaître Leni, le père, parce que le mystère, c'est le mystère de cette radicalisation du jeune homme. Et elle se lâche en quelque sorte en trois pages et il dit tu as raté l'éducation de ton fils, et il fallait lui dire va et ne commets pas de péché. On voit là quelque chose de religieux chez elle et elle reproche une éducation trop libérale. Hein. Et là, on va voir au dénouement comment Leni va se confronter avec Rudigère et Marina va décider de rejoindre Rudigère et son univers à Berlin. Et c'est une espèce de chant de joie que on peut dire apocalyptique, page 87. J'espère que je n'ai pas fait la même erreur que tout à l'heure. Quand j'arrive à la fin, parce qu'on est aussi à la fin de l'émission, pour un honneur à votre élu, vous l'aurez pour une autre fois.
Je lis Rudigère ou Marina, ou les deux ?
Les deux, parce qu'ils sont tous les deux, les deux interventions se complètent.
Rudigère, j'ai dit à l'époux de Chinon, « Rentrez chez vous, monsieur le libraire, je crois que cette ville ne vous aime pas. » Mais dans mon émoi, je l'ai dit en allemand, et ce Leni m'a fixé de ses yeux pleins d'une sombre et aigre détermination et d'un ennui vaguement dégoûté, aussi, comme si on l'obligeait à considérer quelque chose de malpropre. C'est pourquoi je lui ai dit dans sa langue, « Rentrez dans votre belle France, que les flots engloutiront un jour, dans votre délicieux Chinon, que les eaux torrentielles effaceront de toutes les mémoires, et grâce à moi, Marina sera sauvée et vous serez là-bas submergée et anéantie par vos propres splendeurs, vos élégances et votre pureté. Oh, je ne vous envie pas. Il me va très bien d'être un vieux berlinois de Corbusier House aux pensées cafouilleuses. Il me va très bien mon irréductible complexe d'infériorité tant que je suis assurée que grâce à moi, Marina sera sauvée. Marina. Une grande douleur s'abattra sur la ville et nous tremblerons et nous nous demanderons « Est-ce lui ? Est-ce lui cette fois ?» Eleni hurlera « Marina n'a jamais agi avec lui comme il le fallait. » Mais je ne tremblerai pas, je ne me demanderai pas si le bras de mon fils a semé la terreur et pour la première fois de ma vie très chaste et très intègre, je ne me sentirai coupable de rien, je songerai dans ma quiétude. Que d'autres se parent des habits flatteurs de la responsabilité. Je danse avec Rudiger au rythme de cette Stuben Music qu'il apprécie secrètement. Je suis bien, je suis Marina et les Choukas n'ont que des mots indulgents à mon endroit. Je suis Marina et je ne suis pas coupable. Priez pour lui, je ne m'en occupe pas. Je ne suis plus sa mère à Berlin. Priez pour nous, je ne suis plus la mère de qui que ce soit. Rudiger, oh! Veillez, veillez sur Marina.
Voilà, Marina devient folle, semble-t-il. Elle, en tout cas, elle se dépouille de tout son être précédent. Et elle n'est plus la mère qui cherchait son fils. On vous dira comment la politique réapparaît et le fantastique se défait un peu dans la troisième de ses pièces. Et ce sera pour mercredi prochain. Merci de votre patience et excusez-moi pour mes distractions. Au revoir.
Au revoir.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, ingekuwa